Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour, je suis Laura Pouliken, créatrice de contenu freelance, et je vous souhaite la bienvenue sur L'Aléa, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour montrer que la prise de risque est bénéfique à bien des niveaux. Pour le prouver, j'invite des hommes et des femmes qui sont sortis de leur zone de confort dans des circonstances variées. Si le challenge, le développement personnel ou tout simplement les parcours inspirants vous plaisent, vous aimerez ce podcast. Pour me soutenir, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ou à en parler autour de vous, à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes, et enfin à me rejoindre sur le compte Instagram lalea.media. Cela m'aidera à faire connaître le podcast au plus grand nombre et à renforcer la communauté d'audacieux autour du podcast. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Marion Bertorello, créatrice de contenu très populaire sur les réseaux sociaux. Avec Marion, nous avons parlé de sa sortie de zone de confort pour quitter son CDI bien payé et se lancer à son compte, et de ses projets entrepreneuriaux. Vous allez voir que Marion est une véritable battante qui part de loin pour réaliser ses rêves. Trois leçons à retenir de cet épisode. Pensez au coup d'après et réaliser que tout peut partir du jour au lendemain. Ne pas écouter les moqueries et le jugement des autres et continuer à croire en soi. Faire des petits jobs forge la jeunesse. La qualité audio est un peu moins bonne que d'habitude. En effet, Marion la globe-trotteuse était sur la route pour partir en voyage. J'espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. Hello Marion.
Hello.
Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui sur le podcast L'Aléa pour une interview pour parler de toutes tes sorties de zone de confort.
Ouais.
Dieu sait qu'il y en a et pour se concentrer donc, sur la principale, enfin en tout cas sur celle que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, lorsque tu es passée donc, de ton CDI bien payé à, au métier de créatrice de contenu freelance.
Ouais.
Est-ce que d'abord, pour ceux qui ne te connaîtrais pas, qui serait éloigné des réseaux sociaux et d'Instagram, tu peux te présenter, s'il te plaît.
Oui, bien sûr. Du coup, je m'appelle Marion Bertorello. J'ai 28 ans, bientôt 29. Je vis à Paris depuis maintenant 5 ans. À la base, je suis d'origine lyonnaise. Et du coup, effectivement, j'ai commencé par un cursus très classique que tout le monde connaît. Et puis, au fur et à mesure que j'ai grandi, je me suis rendu compte que j'étais bien différente des gens et ça m'a pris du temps, mais j'ai décidé de faire un peu comme j'avais envie de vivre, en fait.
Et ben justement, on va parler de tout ça. Tu as un parcours vraiment intéressant. Et moi, d'abord, j'ai envie de commencer par une question, puisqu'on c'est vrai qu'on te connaît beaucoup par ton compte Instagram, Marion Bertorello.
Ouais.
Mais aujourd'hui, finalement, je me demande qui était Marion avant Instagram et le blog. Comment était ton enfance? Quels étaient tes rêves en grandissant? Et avant que tu te consacres finalement pleinement aux réseaux sociaux?
Alors du coup, moi, j'ai vraiment, je suis hyper loin de tout ça parce que j'ai grandi à la campagne. Mais quand je te dis campagne, c'est qu'en gros, le village, c'était ma famille, quoi. Et tu vois, genre, on devait faire 30 minutes de bagnole pour aller chercher une baguette de pain. Enfin, c'était vraiment, genre, vraiment la campagne comme on peut s'imaginer. Et du coup, j'ai grandi là-dedans pendant 13 ans, donc de ma naissance jusqu'à mes 13 ans. Et du coup, c'est vrai que là, à cette époque-là, j'avais pas spécialement de rêve, je savais pas du tout ce que c'était que rêver. Parce que mes parents ont toujours énormément travaillé, enfin, mon père faisait 4 heures du matin, 22 heures, parce que du coup, il était maraîcher. Et ma mère travaillait aussi beaucoup, après, elle a pris un congé mat pour ma sœur. Mais du coup, c'est vrai que j'ai toujours eu ce rôle de fille aînée, limite un peu genre maman. Et du coup, j'avais absolument aucun rêve quand j'étais petite. Voilà, j'ai grandi dans une belle maison avec une famille très proche. Et puis, petit à petit, j'ai eu envie, entre guillemets, de prendre l'air. Et pour moi, j'ai vraiment découvert ce que c'était que le monde, du coup, à mes 13 ans, quand on est sorti de la campagne, en fait. Qu'on s'est installé plus dans la ville, même si c'était une toute petite ville, mais c'était dû à la ville. Et en fait, je pense que mon premier rêve, entre guillemets, en grandissant, je me suis dit que c'était juste que je voulais pas avoir cette vie-là, quoi. La vie des gens que je côtoyais, même, entre guillemets, tu vois, la vie de mes parents qui ont eu, etc. Eux, ils ont pas eu le choix, tu vois, mais moi, je me suis dit, je vais avoir le choix. Et du coup, je me suis découverte une espèce de force mentale, pour arriver à tout ce que j'avais envie de faire dans la vie, quoi.
Et c'est hyper intéressant, ouais, c'est vrai que c'est assez, finalement courant. Enfin, moi, c'est pareil, en fait. Je me suis dit, j'ai vraiment pas envie de faire ce que font mes parents. Voilà, vraiment une envie d'émancipation et de créer un peu plus notre vie, ce qui est quand même générationnel, notre génération, ouais, par rapport à nos parents qui avaient un peu suivi, finalement, le schéma classique. Et donc, du coup, toi, si je me trompe pas, alors je saute peut-être des étapes. Tu es partie à Paris pour faire l'EFAP, si je me trompe pas.
Alors, du coup, j'ai fait l'EFAP. Par contre, moi, j'ai pas fait l'EFAP à Paris, j'ai fait l'EFAP à Lyon.
Parce qu'en
fait, du coup, bah, en fait, mon père a changé de travail. Puisque effectivement, maraîcher, quand on a 3 enfants à charge et un crédit maison, bah, ça l'a pas fait. Du coup, il a dû complètement se refaire une formation. Et du coup, il est passé plus dans tout ce qui va être construction et conduire ce qu'on appelle des poids lourds. Et du coup, en fait, ce métier-là fait qu'on a beaucoup déménagé. Enfin, beaucoup. On déménageait pas tous les ans, mais on a quand même pas mal déménagé parce qu'il fallait suivre de chantier en chantier, tout simplement. Et en fait, quand j'ai eu du coup mon bac, c'est là que j'ai décidé de partir de chez moi. Donc j'avais 18 ans et je suis revenue en fait à Lyon. Alors là, je suis vraiment venue à Lyon, vraiment Lyon, la ville, quoi. Et quand j'ai, parce qu'en final, j'ai grandi à 3/4 d'heure de Lyon. Et du coup, quand on avait des anniversaires avec toute ma famille, etc., tu vois, on faisait toujours des restos à Lyon. Donc pour moi, Lyon, ça a toujours été une ville de cœur. Et je me suis dit que du coup j'allais faire mes études là-bas. Donc je suis partie de chez moi à 18 ans. J'ai fait mes études du coup à Lyon. J'ai commencé en fait par un BTS en communication dans un lycée privé. Du coup là j'ai eu assez de chance parce qu'en fait comme je suis partie de loin de chez mes parents, j'avais une bourse en fait via le CROUS parce que j'étais très très loin de mes parents. Et ensuite j'ai eu le droit aussi aux APL puisque en fait j'avais déjà à cette époque-là une feuille d'impôt toute seule, donc l'État a vu que j'étais toute seule et du coup j'avais des aides comme ça parce qu'en fait à partir de 16 ans j'ai commencé à travailler et en fait j'ai demandé ma mutation à Lyon qui a été acceptée. Et du coup, partant de là, j'ai commencé mes études. Donc, c'était assez classique. J'avais mes cours lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et le mercredi, samedi, dimanche, du coup, je travaillais toute la journée.
D'accord.
Pour payer mes études, mon loyer.
Waouh. Et tu faisais quoi comme travail, du coup, à côté?
Du coup, je travaillais en jardinerie. C'était les seuls magasins, on va dire, qui étaient ouverts 7 jours sur 7 pour travailler le dimanche et du coup, être payé un peu plus. Et après, je faisais des extras le soir en tant que serveuse dans des bars.
D'accord. Et donc, c'est cette école qui t'a ouvert donc, au milieu de la communication et au milieu, j'imagine, des réseaux. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as commencé ton compte Instagram?
Alors, en fait, j'ai commencé quand j'avais 18 ans. En fait, l'année où j'ai commencé à partir de chez mes parents. Et j'ai vraiment commencé par un blog. Donc, je ne connaissais pas du tout Instagram. Parce que c'était il y a 10 ans, donc tu vois, c'était en 2011. Et moi, j'ai ouvert mon compte Instagram en 2013. Donc en fait, j'ai ouvert mon compte Instagram quand je suis rentrée à l'EFAP. Parce qu'en fait, j'ai fait 2 ans du coup en BTS communication, où j'ai eu des profs assez horribles qui m'ont dit que je ferais jamais rien dans ma vie, etc. Et du coup, j'ai passé en fait le concours pour rentrer à l'EFAP, donc en admission parallèle, parce que j'avais tout simplement pas les moyens de payer les 4 années. C'est pour ça en fait que j'ai fait ça, parce qu'à la base, j'ai toujours voulu faire l'EFAP. C'est juste que bah, quand j'ai vu le prix pour 4 ans, c'était juste pas possible pour moi, tu vois. Donc, j'ai dit, OK, bah, je vais faire autre chose. Donc, c'est pour ça que je suis passée par la case BTS avec des aides. Et après, du coup, j'ai passé le concours de l'ESAP. Et donc là, effectivement, il n'y avait aucune aide. Donc là, j'ai dû m'endetter, faire un prêt étudiant pour payer mon école.
Ah oui, d'accord. Et donc, du coup, j'imagine que tu vivais... tu avais un appart en plus que tu payais ou tu...
Ouais, alors du coup, je m'en rappelle très bien. En final, j'avais 650 euros de loyer. J'avais 300 euros d'APL, donc c'était quand même hyper cool de la part de l'État. Et du coup, en fait, mon travail me permettait de payer mon loyer, me payer à manger, même si je mangeais clairement pas sainement, et me payer du coup un bout de l'école, mais ça s'utilisait pas. Donc du coup, j'ai dû emprunter 10 000 euros pour payer mon école.
Et puis c'est assez jeune pour emprunter.
Mais en fait, c'est vrai que du coup, j'ai vraiment eu. En fait, il y a une seule personne qui a cru en moi depuis le début, c'est mon parrain. C'est lui qui m'a dit, parce qu'en fait, il savait que j'adorais la mode, que, en fait, lui, à la base, il est photographe, donc il m'a transmis déjà la passion de la photo. C'est lui qui m'a offert mon premier appareil, enfin, tout ça. Et après, c'est lui qui m'a parlé des blogs, donc il m'a dit, tu devrais lancer un blog, t'adores faire de la photo, t'adores la mode, tu pourrais faire des articles, t'aimes bien tout ce qui est journalistique, etc. Et du coup, c'est lui, en fait, qui m'a guidé un peu sur toute ma vie, sur ce que j'avais envie de faire de ma vie. Et du coup, quand je lui ai dit que je voulais faire l'ESAP, bah, il m'a dit que c'était une super bonne idée. Et après, quand je lui ai dit que, bah, falloir, que j'allais avoir besoin d'emprunter de l'argent, forcément, il faut quand même des garants. Même si c'est des prêts étudiants, c'est obligé d'avoir des garants, tu vois, c'est comme quand tu prends un appart, etc. Et du coup, c'est pour ces garants, oui. En fait, de mon prêt, que si je le rembourse pas, c'est lui qui me remboursera ma place. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu emprunter l'argent et heureusement, du coup, j'ai pu tout rembourser toute seule, tu vois, au fur et à mesure des années. Mais ouais. Clairement, s'il n'avait pas été là, j'aurais pas pu faire d'études.
Ouais, voilà, t'aurais pas fait l'école. Et on remercie cet oncle qui nous écoutera peut-être. Et du coup, en parallèle donc, de l'école, si je comprends bien, t'as ouvert ton fameux blog qui s'appelait The Lady Jersey à la base.
Ouais, exactement. Ouais.
Et qu'est-ce que tu écrivais alors dans ce blog?
Alors, tout début, ouais, quand j'avais 18 ans, j'écrivais principalement un peu genre je scrutais les fashion shows et j'expliquais un peu je décryptais les tendances mode. Et puis au bout de 2 ans du coup j'ai commencé à me prendre en photo. À l'époque c'était Betty Otier, Garance Doré, Louise Bell, etc.
Oui.
Et donc du coup j'ai commencé comme ça en fait juste à me prendre en photo juste pour le kiff parce qu'en fait si tu veux le fait que j'ai beaucoup déménagé, j'avais un peu pris le pli de ne t'attache à personne, en fait, parce que tu peux partir du jour au lendemain. Et en plus, comme je travaillais, tu vois, tous les week-ends, que je travaillais le soir, j'avais une vie sociale, parce qu'avec le travail, je voyais beaucoup de gens, qu'à l'école, je voyais beaucoup de gens, mais j'avais pas d'amis. De vrais amis à qui me confier, etc. Et du coup, moi, c'était un peu mon exutoire, c'était mon truc à moi, où je pouvais avoir un peu de fierté de me dire que je faisais un truc que pour moi et que c'était un truc qui me faisait kiffer et que j'étais pas que en train de survivre entre guillemets quoi. Et du coup j'ai commencé comme ça et après j'ai ouvert mon compte Instagram en 2012-2013, je saurais plus te dire exactement. Il me semble que je l'ai ouvert en 2012, mais que j'ai commencé vraiment à poster en 2013, quand j'ai fait mon premier voyage en dehors de l'Europe.
Et d'ailleurs, je me demandais, parce que c'est vrai que moi, je me souviens, j'avais les réseaux sociaux à cette époque, et c'était encore, disons qu'on pouvait recevoir en fait des moqueries à ce moment-là. Enfin, moi, je me souviens en fait que j'osais pas trop dire que j'avais un blog et que j'avais mon compte Instagram, parce que j'avais peur qu'on se moque de moi, parce que je prenais des photos de moi. Et enfin, c'était pas vraiment, en fait, c'était pas du tout le métier d'aujourd'hui de blogueuse qu'on connaît. Et qui est vraiment bien vu. Toi, est-ce que tu avais ce sentiment ou...
Ah bah c'était... Je n'assumais pas du tout. En fait, d'accord. C'était un peu, pour moi, tu vois, genre le blog, c'était un peu un truc comme si c'était un journal intime, c'est juste que c'est un journal intime public. Enfin, tu vois, ça m'arrivait même de faire des billets d'humeur sur des anecdotes qui me sont arrivées. C'était grave moqué, même à l'école, alors que j'avais 20 ans, tu vois. Je me disais, mais comment à 20 ans, on peut être comme ça? Mais c'est juste que j'ai toujours eu un décalage parce qu'au final, j'ai toujours côtoyé, si tu veux, des milieux aisés, sauf que je viens pas du tout de ce milieu-là. Et du coup, il y avait toujours un décalage, en fait. Je me suis toujours sentie en décalage avec les gens, ils se moquaient tout le temps, tu vois, de comment je m'habillais, parce que oui, moi, c'est sûr, en fait, j'avais pas des parents qui m'amenaient chez Maj ou chez Sandro toutes les semaines, en fait. Donc, du coup, tu vois, genre, on se moquait de comment je m'habillais, on se moquait de mon physique, on se moquait de ce que je faisais. Mais en fait, au final, tu vois, le fait que, mis à part mon parrain, on est toujours un peu rabaissé, on m'a toujours dit, je te dis en BTS, j'ai quand même deux profs qui me disent que je ferai rien de ma vie, que jamais j'aurai le concours de l'EPAP, tu vois. Et c'est juste que pareil, tu vois, c'est des nanas, c'est des bourges lyonnaises qui ont jamais galéré de leur vie, et qui ont toujours eu tout le cul dans la bouche. Du coup, en fait, c'est impossible qu'elles comprennent d'où moi je venais. Et au final, c'est grâce à toutes ces personnes-là qui n'ont pas cru en moi, en fait, que je me suis dit, bah, en fait, puisque personne ne croit en moi, de toute façon, t'as deux solutions. Soit tu tires une balle, soit en fait, tu te bats, tu fais les trucs pour toi, tu vois.
Donc, ouais, exactement. C'est clair.
Donc, du coup, c'est parti de là. C'est qu'au final, ouais, au final, j'étais hyper moquée. Et en fait, je pense que même des filles, certainement dans l'eau, qui se moquaient de moi, mais qui auraient aimé faire ça, ne l'ont jamais fait, ne se sont jamais lancées. Et puis, bah, au final, elles ont aujourd'hui la vie, elles, leur convient certainement très bien, mais moi, c'est ma hantise. Et du coup, je me dis encore plus, j'ai bien fait de ne pas suivre le mouvement, tu vois.
Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, je comprends tout à fait. Et du coup, donc en parallèle, tu avais ce blog, tu as fait tes études. Ouais. Et après tes études, tu as eu envie de te lancer tout de suite à ton compte. Comment ça s'est passé à ce moment-là?
Non, alors,
tu pouvais d'ailleurs te lancer à ton compte
ou... Non, pas du tout, pas du tout. À l'époque, du coup, donc, j'ai eu mon master en communication en 2015. Et en fait, pour moi, si tu veux, j'avais fait deux stages qui m'avaient énormément plu. J'avais fait l'organisation du Festival de Cannes, donc tout ce qui est événementiel en lien avec le cinéma, la culture. Ça, c'était un truc que j'aimais énormément. Et j'avais fait aussi donc ça, j'avais fait 6 mois, et j'avais fait un stage de 6 mois au magazine Vogue à Paris. Donc là, c'était plus pour la partie journalisme, création de contenu, du coup, vraiment les shootings photos, tu vois, comment on choisit la mannequin, comment on choisit le photographe, comment on choisit le lieu, comment on choisit les looks, etc. Donc, c'est vraiment deux choses que j'adorais. Donc, c'est quand même des milieux qui sont très paillettes, au final, parce que je pense que j'étais attirée par ça, parce que moi, j'ai pas du tout grandi là-dedans, tu vois. J'ai grandi dans la terre, enfin, tu vois, j'étais à l'opposé. Et du coup, au final, je me suis dit que j'allais trouver un job en com à Lyon, puisque c'était quand même là que j'avais mon appart, que j'avais du coup mon crédit étudiant à rembourser, parce que tu sais, tu le rembourses une fois que tu as fini tes études. Et puis au final, voilà, il m'est arrivé 2-3 mésaventures qui ont fait que je me suis dit, ok, je plaque tout et je monte à Paris. Et donc là, et pourquoi Paris? Parce que mon parrain habite à 3 quarts d'heure de Paris et qu'il a bien voulu me loger, me nourrir, me blanchir pendant 2 mois, quoi.
Le monde après chez Vogue et tout ça, ça donne beaucoup d'expérience. Après, c'est pas forcément évident, je pense. Enfin, c'est un milieu qui est assez dur aussi. Et tu es devenue gestionnaire de patrimoine.
Bah là, c'est pareil, c'est un peu flou. C'est que du coup, comme ce que je te disais, c'est que ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai fait le jour de l'an 2015-2016 chez moi à Lyon, avec les gens que je côtoyais à l'époque. Et en fait, pendant ce jour de l'an, je leur ai dit que je plaquais tout, que je partais, et que j'avais pas spécialement envie d'avoir de leurs nouvelles, en fait. Que pour moi, c'était trop... Genre, je suis quelqu'un qui avance continuellement. Et en fait, j'avais beaucoup de mal à m'entourer avec des gens, tu sais, qui se plaignent tout le temps, qui râlent tout le temps, qui vivent sur leur acquis. Moi, c'est pas... J'ai pas envie de m'entourer de gens comme ça. Bref, donc du coup, j'ai tout quitté, j'ai tout plaqué, j'ai tout recommencé à zéro. Et donc, du coup, j'ai été hébergée par mon parrain. Donc, logée, nourrie, blanchie. J'avais une chambre à moi. Enfin, c'était trop bien. Et du coup, tous les soirs, tu vois, j'avais quelqu'un à qui parler, de confiance, qui m'écoutait, qui me boostait. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à postuler. Je me suis dit, bon, t'as un master en communication, mais tu viens d'arriver à Paris, tu ne connais pas Paris. Tu repars de là où tu connais, quoi. Donc, pendant 6 ans, j'ai été vendeuse en jardinerie. En fait, je sais très bien vendre, être vendeuse. Donc, j'ai postulé. Et au final, j'ai postulé chez Mage. Et donc, du coup, j'ai été vendeuse pendant les soldes, genre pendant 15 jours. Et derrière ça, en fait, j'ai postulé un remplacement de congé mat, toujours chez Mage, cette fois-ci au siège, en fait, au service généraux. Et puis, en fait, le Festival de Cannes m'a rappelé. Donc, c'était à l'époque, genre avril-mai, quoi. Et en fait, le Festival de Cannes m'a rappelé, et en fait, c'est là où je me suis dit, là, ce que je fais, c'est très cool, tu vois, j'ai trouvé des trucs en claquant les doigts, mais c'est pas du tout ce qui me plaît. Donc, je suis partie faire le Festival de Cannes. Et du coup, de là, j'ai rencontré pas mal de gens, etc., etc. Et de réseau en réseau en réseau, j'ai fini par avoir cette proposition qui était du coup, en fait, si tu veux, j'étais assistante personnelle plus gestion de patrimoine d'une famille entière, du coup, de millionnaires. Et du coup, c'était une pour moi, ça a été l'expérience la plus enrichissante parce que je faisais pas du tout les études pour lesquelles j'avais fait. Mais en fait, j'ai tout appris. J'ai tout appris sur le terrain. Je bossais des nuits entières sur ce que c'était que la fiscalité. Tu vois, comment on gère un patrimoine. Et j'ai tout appris sur ça. Donc, pareil, tu vois, c'est des gens qui m'ont fait grave confiance. Et après, voilà, ils m'ont toujours dit qu'ils m'avaient prise, clairement pas pour mes études, mais pour ma personnalité, ce que je dégageais et l'envie que j'avais d'apprendre des choses. Et donc là, tu vois, j'étais hyper bien payée, et en tout cas pour mon âge, et je faisais des horaires aussi du coup de dingue. Clairement, je faisais 8h, 20h, et c'était 17 jours sur 7, quoi. Et puis c'était, je travaillais du coup entre les États-Unis, France, Israël, quoi. Donc tu vois, t'avais un décalage horaire qui était assez important, donc les gens m'appelaient la nuit, enfin voilà, mais c'était hyper intéressant, j'ai appris une tonne de trucs, et pour le coup c'est des gens qui sont devenus millionnaires si tu veux par eux-mêmes, ils ont tout créé de leurs mains, et donc du coup pour moi c'était encore plus inspirant parce que j'étais là, ah ouais, mais en fait moi c'est ça que je veux faire, pas pour être millionnaire, mais juste pour avoir cette liberté de faire tout ce que tu veux, quoi. Si t'en as marre, si t'as pas envie d'aller... Enfin, tu vois, moi, ma boss, il y a deux jours, si elle avait pas envie d'aller au taf, elle y allait pas, quoi.
Mmh. Ouais, c'est... Puis c'est là. C'est la satisfaction aussi de réussir quelque chose, finalement, par soi-même, quoi. Et,
Ouais, c'est ça, exactement.
Ouais, ouais. Et t'étais...
En parallèle, donc, du coup, comme je t'ai dit, j'ai commencé Instagram en 2013 avec un voyage. Après, j'ai abandonné les voyages parce que, pas de moyens financiers. Et du coup, là, une fois que t'es à Paris... tu rencontres quand même beaucoup de gens. J'avais quand même quelques marques. Déjà, quand j'étais à Lyon, c'était tout début, qui m'avaient envoyé des produits gratuitement. Du coup, ils m'invitaient aux événements. Et en fait, là, j'ai commencé à comprendre ce que c'était vraiment que le business en côtoyant, si tu veux, des filles du milieu parisien, ce qui n'est absolument, pour moi, rien à voir avec la province, en tout cas à l'époque. Et en fait, en faisant, tu vois, une fois que t'es à Paris, tu fais tous les événements, tu rencontres tous les RP. Comme moi, j'avais un CDI très bien payé et j'acceptais de faire tout, si tu veux, gratuitement. Et en fait, j'avais énormément de choses à faire. Donc en fait, je passais mes nuits sur mes mails. La journée, en semaine, j'étais au bureau. Et le week-end, je travaillais aussi, mais je sortais pour faire des photos. Donc là, je demandais... à mes amis de me prendre en photo, des fois je me prenais en photo en trépied, enfin tu vois, je me débrouillais. Et puis ça a commencé à arriver les propositions que j'étais payée. Et en fait, je pense que c'est un peu comme pour tout, tu vois, tu commences à faire les choses un peu gratuitement, et puis du coup les RP t'aiment bien, et puis du coup elles commencent à te faire confiance, et du coup comme tu rencontres des filles du milieu, que les marques elles parlent de toi, c'est comme ça que tu grandis aussi. Et après, t'as bien sûr aussi la stratégie Instagram, et ça, c'est bien après, tu vois. Genre, j'ai vraiment compris comment fonctionnait Instagram bien après avec les hashtags, taguer les marques, poster souvent, faire après quand les stories sont apparues, faire beaucoup de stories, etc. Et du coup, tu grandis comme ça, et jusqu'au jour où, on a commencé à me proposer des voyages. Et moi, les voyages, ça a toujours été finalement ma passion, et en fait, j'ai commencé à devoir dire non aux voyages parce que à cause de mon taf. Et du coup, je commençais à être frustrée, en fait. J'ai commencé à dire à mes boss, si vous voulez que je reste avec vous pour vous offrir ce service-là, il faut que vous m'augmentiez, quoi. Et l'augmentation est jamais passée, en fait. Enfin, ils ont jamais accepté. Et du coup, moi, j'ai vraiment vécu ça un peu, si tu veux, comme, je suis en train de vous donner ma vie. Grosso modo, tu vois, quand tu fais 8h, 20h, que tout le monde t'appelle la nuit, tout le temps, etc. J'estime que c'est un coût, en fait. Et en fait, le choix de à nouveau tout replaquer et tout refaire, comme la première fois je l'ai fait en 2015-2016, là je l'ai refait, c'est-à-dire que ça m'a pris 24 heures, quoi. En 24 heures, j'avais posé ma lettre de démission.
D'accord. Et voilà. Donc, tu touchais pas le chômage, j'imagine.
Eh ben non, du coup, alors ça, c'est pareil, tu vois, genre quand t'es jeune, il y a des trucs que tu ne sais pas, surtout quand t'es un peu toute seule. Et effectivement, je savais pas du tout que, genre, le système de rupture conventionnelle, ça existait. Je savais pas du tout non plus que, tu vois, genre, juste si j'avais arrêté de travailler du jour au lendemain, bah, j'aurais fait un abandon de poste, mais tu finis quand même par toucher ton chômage au bout de 3-4 mois, je crois. Donc moi effectivement j'ai démissionné comme une fille qui ne profite absolument pas du système et du coup j'avais absolument pas de chômage et en fait bah encore une fois je pense que ça m'a aidée parce que quand tu touches pas le chômage tu vis pas du tout sur tes acquis, t'es obligé de te sortir vraiment de ta zone de confort puissance 1000 et voilà et après bien sûr tu calcules encore une fois le moindre centime que tu auras à charge tous les mois et tu te dis ok bon bah du coup là pour entrer dans mes frais il faut que je signe tant de contrats par mois et au final ce que je signais déjà à l'époque.
D'accord, ouais parce que c'était un véritable pari, au début c'était pas mal aussi d'échange de visibilité, je t'offre un voyage, je t'offre des produits et puis en échange tu fais une story, c'était quand même ouais. Le début des cachets pour les influenceuses.
Alors moi en fait j'avais même touché des cachets à l'époque quand j'étais à Lyon déjà. Mais je touchais, toi, c'était des mini cachets, mais c'était déjà très, très cool. Surtout, enfin, tu vois, genre, sur mon blog, genre, à l'époque, c'était encore, où je devais rédiger un article entier, on peut parler de telle marque, tel truc, tel machin. Et au final, quand je suis arrivée à Paris, j'ai commencé à vite être payée, tu vois. Parce qu'au final, je me suis rendu compte que toutes les filles qui étaient à Paris, elles en vivaient toutes, enfin, celles qui étaient à plein temps, elles en vivaient toutes bien, quoi. Et du coup, c'est là que je me suis dit, ok, bah du coup, voilà, t'as été vendeuse, tu sais te vendre, du coup, aussi. Et j'ai commencé comme ça. Mais en vrai, de vrai, quand j'ai quitté mon CDI, je me faisais déjà un SMIC avec Insta.
D'accord.
Donc, ouais, en fait, mon CDI m'a permis de rembourser mon prêt étudiant avec 5 ans d'avance. Et en fait, je me suis dit... quand j'ai démissionné, tu vois, je me suis dit, ok, avec un SMIC, il y en a bien qui arrivent à vivre à Paris, donc pourquoi pas moi, quoi. Et en fait, c'est ça, je me suis dit, je préfère faire comme à l'époque où j'étais étudiante, manger des nouilles à 90 centimes tous les jours, mais en fait, vivre de ma passion, de la photo, de rencontrer des gens, de gérer mon emploi du temps, de vivre pour moi, en fait, et pas pour d'autres gens. Et du coup, je ne regrette pas du tout, quoi.
Ouais, bien sûr. Et toi, est-ce que ton entourage, ils avaient peur pour toi à ce moment-là ou ils te soutenaient dans ta démarche ?
Peur, je pense pas. Et après, oui, bah mon parent, tu vois, c'est pareil, c'est lui qui m'a dit, mais tu sais, avec ton blog, tu peux vivre. Et je lui avais dit, non, mais pas du tout. Enfin, tu fais comment, tu vois ? Et c'est même lui qui m'avait expliqué le business model, quoi. Et alors, quand Insta est arrivé, c'était encore mieux, si tu veux. J'ai commencé à recevoir une tonne de produits, bah, du coup, chez lui, parce que j'habitais chez lui. Et c'est là où il m'a dit, non, mais en fait, genre ça, là, ok, tu reçois des produits, c'est cool, mais en fait, demande aux gens de te payer. Enfin, toi, c'est de la visibilité. C'est quand même, en gros, voilà, il m'a dit, en plus, t'as bossé au Vogue, tu sais comment ça marche. Les gens, ils sont prêts à payer des milliers pour un encart et ils savent même pas quantifier des retombées. Toi, en plus, tu peux quantifier les retombées. Donc, commence à te faire payer, etc. Et du coup j'ai commencé comme ça quoi. J'ai commencé comme ça parce que c'est lui qui m'a dit vas-y fais-le et après quand j'ai dit que j'allais démissionner en vrai il m'a dit que j'avais raison et que j'ai cru comprendre à demi-mot que c'est lui il avait eu l'occasion de pouvoir le faire aussi en étant plus jeune avant d'être papa etc avant d'avoir un crédit maison je pense qu'il aurait fait la même chose.
D'accord. Et toi aujourd'hui du coup déjà est-ce que donc tout le monde n'arrive pas forcément au niveau d'influence que tu as aujourd'hui. Toi, pour toi, qu'est-ce qui a fait que ça a marché ? Qu'est-ce qui a fait que tes comptes comme ça ont décollé ? Alors, tu me parlais de ton entourage, de ton réseau, mais tes petits secrets
En vrai, ça ne s'explique pas vraiment. Enfin, déjà, moi, je considère que le nombre d'abonnés que j'ai, ce n'est pas grand-chose. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des nanas, elles ont... toutes celles qu'on suit, elles ont dépassé le million, tu vois. Alors qu'on a commencé en même temps, tu vois. Enfin, ou elles sont à 1 demi-million, voilà. Je pense pas vraiment qu'il y ait de secret. Moi, je pense que c'est surtout ce qui m'a aidé, c'est d'être assez sociable avec les gens, de vouloir toujours rencontrer des nouvelles personnes. Et donc, du coup, forcément, quand tu connais des gens, bah, après, on parle de toi, quand t'es vu aux événements, etc. Et après, je pense que j'ai réussi à garder les gens. parce que je suis hyper authentique dans ma façon de parler, d'être, de ce dont je parle, etc. Quoi.
Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as une stratégie de communication pour tes réseaux? Comment tu les gères?
Alors, je n'ai pas vraiment une stratégie de communication. En revanche, plus je grandis, plus, du coup, là-dessus, ça fait plus de 3 ans maintenant que je fais ça à plein temps. Et c'est plus que j'ai envie de vraiment travailler avec des marques ou des concepts ou des expériences qui correspondent de plus en plus à mes valeurs que je me crée en grandissant, quoi. Si tu veux, je suis pas... Enfin, pour moi, on est, enfin, quelqu'un qui grandit, c'est quelqu'un qui évolue et du coup, c'est quelqu'un qui change d'avis sur plein de choses, plein de sujets. Et en tout cas, c'est le cas pour moi. J'ai plus du tout la même vision de mon métier maintenant qu'il y a 3 ans. J'ai plus du tout la même vision de ma consommation maintenant qu'il y a 3 ans. Et j'ai plus du tout la même vision de ce que j'ai envie d'être comme femme maintenant qu'il y a 3 ans. Quoi. Ça change tout le temps, ça évolue tout le temps. Surtout à cette période-là, tu vois, genre pour moi, entre 25 et 30 ans, c'est quand même là où tu changes le plus. C'est là où tu te lances dans la vie active. Et du coup, j'ai pas de stratégie, je calcule pas, tu vois. Juste, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'ai envie de montrer aux gens et j'ai envie de plus l'assumer aussi, tu vois.
Ouais, et c'est tout ce côté, justement, que tu disais. Donc, voyage et même maintenant, voyage éco-responsable, si je me trompe pas.
Ouais, c'est ça.
Ouais,
ouais, c'est ça. Du coup, j'ai... voilà, pareil, je me suis questionnée. Après, c'est vrai que comme j'ai un master en communication, si tu veux, j'ai les bases de comment on fait un positionnement, quels sont les signes, etc., etc. Donc, j'ai quand même bossé là-dessus. Et en fin de compte, je me suis rendu compte, en fait, je me suis posé la question de qu'est-ce que j'aimais, vers quoi j'avais envie d'aller. Mais je suis pas quelqu'un, j'ai jamais été dans les extrêmes. Pour moi, c'est pas bon d'être dans les extrêmes. Et du coup, je suis toujours un peu dans le juste milieu. Et en fait, je suis quelqu'un tellement curieuse que je suis à l'aise avec tous les sujets, tu vois. Je suis à l'aise avec de la food, de la mode, de la beauté, de l'automobile, du high-tech, du voyage. Mais au final, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que tu peux être à l'aise avec tout ça, mais que les gens, pourquoi est-ce que les gens te suivraient, du coup? Parce qu'au final, si tu fais tout et n'importe quoi, tu ressembles à n'importe qui. Et au final, je me suis rendu compte que j'aimais 2 choses qui paraissaient complètement, tellement opposées dans le monde d'aujourd'hui. Que je me suis dit, ok, bah moi je vais prendre le pari qu'en fait c'est possible. Et du coup, c'est marqué dans ma bio, tu vois, j'ai repris le mot éco qui correspond à éco-responsable, éco-friendly, écologie, etc. avec luxury, donc tout ce qui va être luxe, haut de gamme, premium. Parce que pour moi aujourd'hui, on peut totalement aimer les belles choses, vivre dans un certain confort. Sans forcément abîmer la planète, les animaux et tout ce qui nous entoure.
Ouais, bien sûr. Ouais, non, c'est intéressant. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler aussi de tes projets avant de passer aux petites questions que je pose toujours à la fin du podcast. Donc, tu m'as dit aussi en préparant cette interview que tu avais donc toujours dans les challenges Marion, que tu avais que tu avais créé des sociétés qui n'ont pas forcément marché et que tu avais que tu avais comme projet d'y en créer d'autres. Est-ce que tu peux également me raconter ce pari, ces projets?
Là, j'avais monté pas mal de projets parce que je pense que c'est dans ma nature. Je pense qu'au final, depuis que je me suis lancée sur Insta, moi, c'est pas, enfin, bien sûr qu'il faut que tu aies de l'engagement pour avoir des contrats, mais moi, ce qui me plaît avant tout, c'est vraiment la création de contenu. Donc, c'est faire de la photo, faire de la vidéo et si possible, le faire en voyageant pour que ça m'apporte aussi à moi-même. Mais je me suis dit que forcément, à un moment donné, ça va s'arrêter. Ça peut pas durer, je me vois pas me prendre encore en photo et en vidéo à 60 ans, quoi.
Ouais.
Sauf que quand t'es à ton compte, bah, on le sait, hein, surtout quand t'es en France, je cotise à peine pour ma retraite, j'ai pas de chômage, demain je tombe enceinte, j'ai pas de congé maternité, enfin, en fait, j'ai aucune aide financière, si tu veux. Après, l'avantage, c'est que comme, t'as pu comprendre, on m'a jamais aidé financièrement toute ma vie, je sais que j'arriverai à rebondir, mais le but, c'est pas non plus que ça me foute des nœuds au ventre et que ça m'empêche de dormir. Donc, du coup, je me suis toujours dit, il vaut mieux profiter justement que ça marche ça en ce moment pour lancer des choses parce que t'as le carnet d'adresses, parce que t'as la communauté qui va certainement te suivre. Du coup, j'ai voulu monter des sociétés plutôt en vente de marchandises. Au final, je me rends compte que c'est pas fait pour moi parce que j'arrive jamais vraiment à ce que je veux. Du coup, ça se dirige plutôt tout le temps vers plus de la prestation de services. Donc en fait, à la base, j'avais une agence de création de contenu, community management, spécialisée du coup dans tout ce qui est hôtel, etc. Sauf qu'au final, c'est un milieu qui, moi, je trouve, ne paye pas du tout, ou très mal en tout cas. Un peu comme tout ce qui est dans la culture et tout ça. Donc, du coup, au bout d'un moment, j'ai arrêté, tu vois, ce que je me suis dit, ça sert à rien. Enfin, je travaille, entre guillemets, à perte, quoi. C'est pour m'abîmer la santé, ça sert à rien. Et puis, du coup, là, j'ai plus, là, en tout début d'année, j'ai lancé, du coup, mes présets, qui marchent super bien. Donc, c'est les filtres que j'utilise sur Instagram pour mes photos.
Mmh.
Et du coup, ça marche plutôt bien. Et du coup, en fait, je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est un truc où je suis bonne, c'est un peu sur la création de contenu, tout ce qui est visuel. Donc du coup, je me concentre surtout là-dessus. Après, c'est vrai que moi, je parle pas trop de mes projets en amont parce qu'effectivement, à chaque fois que j'en ai parlé, ça ne s'est jamais fait ou ça s'est mal fait. Donc là, du coup, j'en parle pas, mais j'ai une idée du coup avec mon compagnon plus sur de la prestation de service, si tu veux, et on a une autre idée beaucoup plus grosse qui arrivera dans plusieurs années, je pense. Mais voilà, mais oui, dans tous les cas. Avoir juste Instagram, c'est pas fait pour moi, quoi.
Ouais, bah on suivra tout ça de près et je suis sûre que tu vas y arriver. On va finir par des petites questions que je pose toujours en fin d'interview. L'idée, c'est d'y répondre rapidement.
Ouais.
Ta plus grande peur?
Ma plus grande peur, je pense que... Ouais, ma plus grande peur, en vrai, c'est le vide. Genre, quand je vois pas ce qui se passe, le vide.
Un échec et une leçon que tu en as retirée?
De me mettre en couple beaucoup trop jeune en perdant tous mes amis. Et que du coup, je me suis toujours dit, être en couple, c'est bien, mais au final, tes amis, ils sont vraiment toujours là, quoi.
Tes citations préférées?
Celle qui me représente, en tout cas, tout mon passé, c'est « Qui ne tente rien n'a rien ».
Tes routines pour rester bien physiquement et mentalement?
Alors moi je suis pas du tout routine parce que justement c'est un mot qui m'oppresse. Mais sinon globalement physiquement du coup je fais du sport principalement du yoga surtout. Et voilà, c'est le truc qui pour moi me fait du bien physiquement et mentalement, c'est le truc qui allie les deux, tu vois. Sinon après après je fais du sport aussi plus genre boxe etc. Et après mentalement ma routine c'est d'appeler mes amis pour leur raconter ce que je fais tous les jours, quoi. Ça me fait du bien mental.
Ton plus grand rêve?
Du coup mon plus grand rêve qui a toujours été et qui devrait se concrétiser, c'est de faire le tour du monde.
Ah oui. Et d'ailleurs, il me semblait que tu étais en organisation ou que tu es en organisation d'un tour du monde justement.
Ouais.
D'accord.
Ouais, pour partir dans un peu plus d'un an, du coup.
Ah ouais. Et ma dernière question rituelle du podcast, quelle est ta définition du risque et selon toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement?
Du coup, pour moi, un risque, c'est une décision qu'on prend sans en connaître les conséquences. Et en fait, pour moi, il faut toujours prendre des risques parce que tant qu'on prend des risques, c'est qu'on se remet en question. Et qu'on avance, et qu'on évolue, et qu'on reste pas dans un pseudo-confort de vie, et qui, malheureusement, souvent, quand on vieillit, on se rend compte qu'on est passé à côté de beaucoup de choses. Et une autre citation que j'aime beaucoup, que je dis souvent d'ailleurs, je dis souvent que je préfère avoir des remords que des regrets, c'est-à-dire que souvent, je préfère faire les choses et mal les faire, ou vivre des échecs, mais les faire plutôt que de jamais rien faire, en fait.
Totalement. Et merci beaucoup Marion pour cet échange.
Merci à toi.
et je te dis à très bientôt. Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. À très vite sur le compte Instagram lalea.media pour découvrir les coulisses du podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.